Andrew Perron, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Ça fait plaisir.
Si tu pouvais te présenter en quelques mots, Andrew, qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Moi, je suis chef cuisinier avec un service de traiteur biologique, végétalien, puis vraiment axé sur les produits de saison. Je suis situé principalement au couvent de Valmorin, un lieu où les gens vont se retirer pour faire des retraites de yoga, de méditation, puis aussi des mariages parfois. Donc, moi, je m'occupe de nourrir les gens avec des bons produits d'ici, puis en partageant en même temps des connaissances culinaires.
Donc, tu es dans le domaine de la restauration, mais pas dans un restaurant, c'est ça?
Exact.
Puis, bon, on le fait dans le contexte de la CPFNL, notre petite entrevue. Puis, on veut bien sûr parler des produits sauvages, puis des produits locaux. C'est quoi, toi, ta relation avec ces produits-là dans ta pratique de cuisinier?
Dans ma pratique de cuisinier, c'est un peu le désir d'être en contact avec l'origine des aliments, où est-ce que c'était avant d'être dans l'assiette. Donc, pour moi, j'ai fait une formation en cueillette de produits forestiers. Puis pour moi, à ce moment-là, j'ai vraiment découvert la richesse qui nous entourait. L'abondance qu'il y a dans les forêts. Puis pour moi, c'est vraiment une relation d'émerveillement, une relation de découverte culinaire parce qu'il y a tellement de saveurs, tellement de potentiel. Puis aussi une relation médicinale aussi parce que pour moi, je le vois comme vraiment la nourriture qui est adaptée pour nous à chaque instant par l'alimentation de saison. Par rapport à la richesse nutritive là, que ces plantes-là, que ces produits-là contiennent.
Puis médicinal, tu sais, quand on entend médicinal, on a comme l'idée d'un médicament, là, quelque chose qui goûte mauvais mais qui est bon pour nous. T'es pas dans l'herboristerie, le
Non.
médicinal, c'est-à-dire que c'est dans ta cuisine que tu amènes un aspect médicinal. Comment tu fais le lien entre les deux?
Ben, c'est comme Hippocrate avait dit que ton aliment soit ton médicament. Donc, tu sais, on le sait scientifiquement que les aliments sont constitués de nutriments et tout. Puis, on peut savoir la composition exacte de chacun des aliments. Puis, souvent, les produits sauvages vont être beaucoup plus concentrés en nutriments. Le pourquoi les laitues sauvages sont super amères. Puis, une laitue du commerce, ça goûte l'eau et le sucre. Ben on peut voir dans la composition qu'il y a déjà une grande différence. Donc, en général, c'est beaucoup plus riche. Donc, le volet médicinal, oui, on peut le voir comme des aliments qui ont vraiment un haut potentiel médicinal, qui sont considérés comme des médicaments qui peuvent être reconnus pour guérir des choses. Mais moi, c'est vraiment plus au niveau alimentaire, d'intégrer des aliments qui nous nourrissent au lieu de juste remplir un vide calorique, par exemple.
Puis c'est vrai, tu le dis, il y a des principes actifs qui sont plus présents dans les plantes sauvages, mais ça vient aussi avec des goûts plus
Corsé.
forts, plus corsés. Comment les personnes réagissent par rapport à ces saveurs-là? Puis toi, comment tu les travailles?
Ben, je pense qu'on pourrait peut-être mettre quelques catégories d'aliments qui. Il y en a certains qui vont être juste très aromatiques et quand même doux à la fois. Donc, ceux-là, je les considère accessibles aux gens. Puis, on peut parler de plein de tisanes qu'on connaît, tisane de thé du Labrador, thé des bois. Et ça peut être utilisé comme épice. Donc, ça, pour moi, je ne le vois pas comme étant difficile à partager aux gens parce que je leur fais une tisane de ça. Je leur dis que ça pousse dans nos forêts, qu'il y en a juste sur le terrain du couvent, c'est autour de nous. Puis, ils font comme, wow, c'est bon, j'en veux, où est-ce que je peux en trouver? Ou même, ah oui, je me souviens quand j'étais jeune, il y avait ça, puis on goûtait à ça. Donc, pour ces produits-là, c'est assez simple pour moi. Puis, les champignons sauvages, ben, les gens savent que ça existe, ils connaissent pas nécessairement, mais il y a déjà une porte d'entrée. Mais là, quand on parle comme des produits, comme exemple le mérigue baumier, quand on va utiliser les épis, en fait les chatons, ben là, ça c'est vraiment super amer. Là, on parle d'un produit que là, il est peut-être un peu plus dur à intégrer, que là, ça va peut-être être des gibiers ou des viandes fortes. C'est sûr que moi, je ne cuisine pas avec la viande, donc je n'ai pas ce réflexe-là, mais souvent, ces produits qui sont forts, là, dans la tradition autochtone, ou sont reconnus pour aller bien avec les gibiers qui ont du caractère et tout, parce qu'ils goûtent fort. Sinon, mais dans le cas du Mekbaumi, les feuilles, elles, sont vraiment accessibles. Ça fait un très bon laurier, donc c'est vraiment de. Quand les produits sont vraiment plus forts, il y a déjà cette approche-là avec les gens que je vais mettre moins d'emphase sur eux parce que je sais que si je leur en parle, mais que c'est difficile les cuisiner, je risque de les perdre puis de créer une distance avec eux en lien avec ce produit-là. Donc, je me concentre vraiment sur quotidien, par exemple.
Puis, comment, admettons, là, tu rencontres une nouvelle plante, une nouvelle saveur, comment tu rentres en relation avec ça? Puis, comment les idées de recettes émergent?
C'est une très bonne question. Ben en fait, souvent avec le volet instinctif ou ce qu'instinctivement tu vas sentir un arôme, puis tu te dis ah oui, ça va aller bon, être bien dans le sucré, ou ça va être bon avec quelque chose de piquant et tout. Mais aussi, tu as le volet comme scientifique avec le livre Exemple papier et molécules, où ce qu'on réalise que finalement, tous nos aliments, c'est de la chimie, puis qu'il y a des molécules qui se retrouvent dans plein d'aliments, puis qu'on peut comprendre pourquoi. Tel type de. Il y a d'autres aliments qui peuvent goûter la fraise, autre que la fraise ou l'ananas, par exemple. Ben, des fois, il y a ce mélange-là. Instinctivement, tu vas déjà sentir avec quel autre arôme ou famille d'arômes ça va bien aller. C'est vraiment la pratique de prendre le temps d'observer, en fait, surtout. De dire, OK, dans ma bouche, est-ce que c'est piquant? Est-ce que c'est frais? Est-ce que c'est amer? Est-ce que c'est sucré? Puis par rapport à les propriétés que je sens dans la bouche, l'effet, ben là, je peux me dire, OK, avec quoi je peux balancer ça, ou faire ressortir ça. Donc, c'est un peu des principes de base qui viennent avec la pratique aussi, mais qui font en sorte que instinctivement, ou par la pratique, je peux savoir qu'est-ce que je préfère avec ce produit-là. Puis des fois aussi, il y a quand même le volet, est-ce que ça vaut la peine de mettre de l'énergie dans ce produit-là, dans le sens, est-ce que c'est accessible, est-ce que c'est dispendieux? Parce que c'est toujours aussi par rapport au type de cuisine qui est offert. Donc pour moi, c'est sûr que je suis plus dans le volet accessible. Donc, c'est moins de la haute gastronomie. Fait que déjà là, il y a un certain tri aussi là, qui se fait à ce niveau-là.
Y a-tu des genres de combinaisons gagnantes? Tu sais, t'as expliqué un peu les cinq goûts, les sensations. Admettons, j'arrive avec quelque chose de très amer. C'est quoi la combinaison gagnante pour atténuer puis, en fait, aller valoriser cette amertume?
Ben, pour la mer, on a déjà. Première expérience qu'on est habitué, ça va être avec le sucré. Le caramel, c'est le meilleur exemple de l'union du sucré et de l'amertume. Parce que la coloration, selon le degré du caramel aussi, plus qu'il va être foncé, plus qu'il va être amer, mais on a le sucre qui vient balancer. Donc, il peut y avoir des plantes qui vont être super bonnes s'ils ont un profil aromatique qui est frais en plus avec la mer ou qui est épicé, ben, ça peut aller bien avec un dessert, mais il y a aussi avec la mer, il y a le salé qui vient balancer l'amertume. Donc, quand on a un élément amer, le premier réflexe qu'on a, c'est le sucré facilement, mais quand on rajoute du sel aussi, ça vient comme calmer les papilles gustatives. Donc, il y a moins d'emphase sur le côté qui pourrait être désagréable là, du amer, par exemple. Un exemple, c'est les bières amères. Souvent, il va y avoir une plante amère qui est en général le houblon ou les autres sortes de bières qui sont avec des plantes amères. Donc là, il y a un beau potentiel là, pour développer plein de bières avec des plantes amères sauvages du Québec. Fait quoi? L'amertume, le sucré, le salé, là, c'est ce qui vient balancer l'amertume.
Puis Tantôt, tu as parlé de cuisine instinctive avec ton approche. C'est quoi? Je sais que tu l'utilises même dans la manière de présenter ton service. C'est quoi la cuisine instinctive?
La cuisine instinctive, c'est drôle parce que c'est rare en fait que j'utilise ce terme-là. Je pense qu'à ce moment-là, je parlais plus l'instinct comme savoir avec quoi ça va bien aller. Mais la cuisine instinctive aussi, ça, c'est de sentir qu'est-ce qui nous ferait du bien. Comme, mettons, dans une saison, ce qui fait froid, ben instinctivement, ce qu'on a envie, c'est quelque chose de chaud, réconfortant, quelque chose de mijoté. Donc, c'est de comme d'être à l'écoute de ce que notre corps a envie. Puis il y a une différenciation. Des fois, tu sais, si on est fatigué, on peut sentir comme ah, on a envie de quelque chose de sucré ou de gras, mais est-ce que c'est vraiment notre instinct ou notre fatigue qui parle? Tu sais, là, on peut avoir un débat ou des distinctions à faire à ce niveau-là. Puis donc, la cuisine instinctive, ouais, c'est de faire confiance qu'il y a une partie de nous qui sait qu'est-ce qui est bon pour nous. Puis, les enfants font vraiment mieux que nous. Et par exemple, j'ai des amis qui ont des enfants, puis quand ils vont faire un buffet, ils vont mettre plusieurs choix sur la table, puis ils laissent les enfants choisir. Puis les enfants, un soir, ils vont avoir envie de manger plein de bleuets. Puis le lendemain, ah, ben là, ils ont envie de manger autre chose, des légumes, et tout. Puis c'est de montrer que des fois, le corps a certains besoins, comme de faire des recharges de vitamines ou des choses comme ça. Puis sinon, je pense que un élément, je pense, qui serait bien à partager, c'est de cette cuisine-là instinctive, c'est de se faire confiance qu'avec les ressources qu'on a autour de nous, donc ce qui veut dire dans notre frigo, dans notre garde-manger ou dans notre cour, dans la forêt, ben, qu'on a peut-être des aliments qu'on ne voit pas le potentiel, mais qu'on pourrait se faire confiance puis instinctivement voir des recettes qu'on peut faire avec. Cette cuisine instinctive-là en opposition ou comme en équilibre plus, je dirais, avec le réflexe que les gens attendent d'avoir des recettes ou qu'ils vont faire une liste d'épicerie, puis là, ils vont l'acheter plein d'ingrédients pour faire la recette qu'ils veulent faire. Je pense pas qu'on peut nécessairement non plus appeler ça la cuisine instinctive, mais ça l'aide à développer notre instinct créatif à regarder ce qu'on a de disponible, puis de dire, OK, là, il faut que je réussisse à composer un plat avec ces éléments-là. Puis en plus, là, c'est une bonne période pour le faire parce que ça va être le moment de faire le tour de ce qu'on a déjà, d'utiliser au mieux nos ressources déjà existantes pour ne pas les perdre, puis en même temps garder une fraîcheur en faisant une bonne rotation. Donc, ça, je pense, ça l'aide à développer cet instinct-là de cuisiner, de se faire confiance, d'essayer des choses. Puis avec le temps, cet instinct-là se développe. Puis on peut faire des recettes là, inspirées de ce qui traîne dans le frigo. Puis finalement, ça a l'air d'un super bon plat savoureux. Puis donc, moi, j'aime bien partager cette philosophie-là, là, de partager surtout des techniques pour que les gens soient à l'aise à les utiliser de différentes façons que des recettes fixes aussi.
Des techniques, tu veux dire des techniques de cuisson, des techniques d'agencement. Puis, tu sais, je me demande tout le temps par rapport aux comestibles sauvages ou à des produits, admettons, indigènes, qui n'étaient pas présents dans la cuisine de nos ancêtres, européens, disons, que souvent dans les livres de recettes avec des produits sauvages, indigènes, on fait souvent, c'est souvent la cuisine française qui est l'inspiration principale, là, disons, si on remonte à quelques années auparavant, et on va remplacer tel petit produit, telle épice ou tel pourcentage de farine par tel autre produit. Est-ce que tu penses pas qu'il faudrait, est-ce que tu penses qu'il n'y a pas le besoin de réinventer complètement la cuisine à partir des produits qui nous sont propres?
Ouais, c'est une très bonne question qui m'interpelle beaucoup. Je me souviens encore quand j'étais à Québec, c'est une période que là, j'étais devenu chef végétalien dans un centre holistique. Donc, c'était principalement cru, végétalien. Puis là, il y avait beaucoup de gens qui avaient des problèmes avec le gluten, le lactose. Donc, c'est là où que je me ramassais à un hiver où que certains le voient comme limitatif. Comme, ben là, tu manges plus de viande, plus de produits laitiers, nanana, qu'est-ce que tu manges? La salade. Donc, ça, c'est cette vision-là qui est restrictive. Mais moi, je l'ai vraiment vécu comme une opportunité d'exploration de tout ce qui existe autour de ça. Puis c'est là que tu parlais de la farine. Ben, c'est là que j'ai réalisé que finalement, on peut utiliser des farines de tellement de céréales différentes. Puis même aussi, on a des farines d'amandes, de noix de coco, ce n'est pas des farines comme conventionnelles.
Mais des farines de quenouille, des farines de glan
de chêne. Oui, c'est ça. Là, on parlait dans le volet sauvage, noisette, glan de chêne. Puis là, c'est là que j'ai découvert comme, OK, on fait juste toujours répéter les mêmes choses. Puis à ce moment-là, j'avais vu une publicité là, dans un pub où ce que là, il y avait un chef qui avait fait une super recette. Puis j'enlève rien de son crédit. Puis ça, ça m'appartient à moi. C'est ma perception des choses. Mais là, lui, il faisait une recette. Puis là, c'était comme une recette avec un produit unique, là, différent. Puis finalement, c'était une recette classique, mais c'est qu'il intégrait, je pense, soit une plante sauvage ou une bière avec la plante sauvage dans un coulis, dans une marmelade qui accompagnait le tout. Mais finalement, ça reste de la farine, du beurre, du sucre, tout ça. Puis dans ma tête, j'ai comme, en fait, on réinvente pas grand-chose avec ces choses. Beaucoup de travail à faire, il y a beaucoup d'expérimentation, puis finalement, puis là, on va le voir avec la situation actuelle, parce que le système économique est remis en question, l'interconnectivité, mais tu sais, je pense qu'on a un travail à faire de voir est-ce qu'on peut changer le balancier, puis peut-être sortir un peu des produits conventionnels qui, en plus, sont des produits qui sont vides de nutrition, là, qui causent des problèmes de santé, puis donc, ouais, à ce niveau-là, de profiter de cette opportunité-là pour peut-être manger un peu moins, mais mieux, finalement. Parce que de la farine blanche, des pâtes, du pain, on peut en manger en grande quantité avant d'aller chercher la valeur nutritive là, selon le guide alimentaire, par exemple. Mais là, quand on va avec des farines plus indigènes, avec des plantes sauvages, là, on se rend compte que c'est pas du tout la même chose. On n'a pas besoin de manger les mêmes quantités. Donc, ce sera la mission là, d'investir un peu plus dans ça, puis de s'offrir des moments d'expérimentation avec ces produits-là.
Ouais, c'est ça. Moi, j'ai souvent l'image de passer d'une nutrition calorifique, genre calorivore, à une alimentation plus nutritionnelle, tu sais, nutrivore, dans lequel tout le spectre des micronutriments est pris en compte. Puis pas juste les trois grains que sont le glucide, le gras et les lipides. Tu sais, comme arriver.
Ouais, protéines.
J'ai dit quoi? J'ai dit deux fois les gras.
Ouais, c'est du gras lipide. C'est important, le gras. Faut pas l'oublier.
Et les protéines. Et d'ailleurs, c'est ça, tu te dis c'est important. Faut pas l'oublier. Mais toi, t'es un chef végétalien. Mais il y a aussi ça par rapport au PFNL, puis à la flore sauvage en général québécoise, que c'est difficile de se retrouver en protéines. Toi, tu sais comment tu travailles ça? Tu vas me dire, bon, légumineuses et céréales, mais cet aspect-là des protéines, comment tu vois ça dans notre culture, puis en tant que chef végétalien?
Ben, c'est sûr qu'en tant que culture, moi, je le vois beaucoup, même si les normes gouvernementales reconnaissent qu'il n'y a pas de danger à manquer de protéines, qu'on peut compléter céréales, légumineuses, comme tu disais, dans la même journée et non dans le même repas, puis qu'il n'y aurait aucun souci. Mais reste que dans notre culture, notre histoire, tu sais, on a quand même beaucoup vécu avec l'alimentation qui est au centre de la table, la viande et tout. Donc, c'est sûr qu'au niveau sauvage, parce que après ça, comme tu dis, c'est facile, les légumineuses, céréales, ben, on en produit plein au Canada, des céréales puis des légumineuses. Tu sais, on a des pois chiches du Canada dans l'Ouest, on a des lentilles, on a aussi les gourganes, les pois. Tu sais, on a quand même une bonne variété, puis du soya et tout. Mais c'est sûr qu'au niveau sauvage, là, on va avoir quand même des légumineuses sauvages. La vesse d'argent, c'est un exemple. T'sais, sa fleur, elle a plein d'acides aminés. Fait que, bon, c'est sûr que d'avoir ta portion complète de protéines dans une journée en fleur de vesse de chargeau, ça a l'air un peu hippie ou ça fait un peu farfelu. Mais il y a des farines qu'on peut faire avec le petit pois. Je pense qu'il y a il y a des noix qui ont quand même des teneurs en protéines intéressantes. Je pense que c'est sûr que les champignons deviennent un peu la viande végétale, tu sais, des végétariens, pas nécessairement par leur teneur en protéines, ça c'est certain, mais surtout par leur goût, par le umami.
Par le quoi?
Le goût, le umami.
C'est quoi,
qu'on va retrouver dans les champignons.
Le c'est quoi,
umami, c'est associé, ça veut dire saveur en japonais, mais c'est directement relié au glutamate monosodique. Bon, c'est sûr, quand on entend ce mot-là, on sursaute un peu, on pense au buffet chinois puis à l'additif alimentaire. Oui, le glutamate est produit de manière artificielle, mais c'est présent naturellement dans plein d'aliments, notamment la viande, le poisson, les fromages. En fait, c'est présent dans plein d'aliments qui sont fermentés. Donc, toute la fermentation développe cette molécule-là. Mais aussi, c'est présent dans les champignons, dans les tomates, les asperges, le maïs en petite quantité, dans les pommes de terre en petite quantité, les algues aussi. Donc, tu sais, ce qui fait qu'on est habitué avec la viande, c'est le côté savoureux, réconfortant. On mange la viande quand c'est bien salé et tout, juteux, c'est rond, ah, ça descend bien. Puis on a envie d'en manger plus, comme les chips, tu sais. On en mange dans les buffets, c'est addictif. Donc, quand on va manger des champignons, tu sais, les gens qui aiment les champignons, ils vont tout de suite comprendre. Tu sais, finalement, quand tu manges une poêlée de chanterelle, c'est comme, oh mon Dieu, c'est donc ben bon, c'est parfumé. Les shiitake, c'est comme c'est une explosion. Ben, le shiitake, c'est le champignon qui a le plus de umami. Puis dans la culture asiatique, il est comme partout. Dans les bouillons, il est toujours là. Dans les bouillons, tu sais, moi, je mets toujours des algues, des champignons, déjà des éléments qui contiennent du umami. Fait que pour moi, c'est sûr que les champignons pour les produits forestiers représentent un très bon allié pour ceux qui veulent avoir une alimentation plus végétalienne sans perdre le plaisir de manger. Déjà avec les autres légumes que j'ai nommés, c'est bon de les prendre en note parce qu'on sait qu'on peut en intégrer pour que ça soit super savoureux. Les champignons sont un bon allié pour ça. Puis, tu sais, je pense... On ne se cachera pas qu'on ne mangera pas du jour au lendemain juste les produits sauvages. C'est sûr que la source de protéines majeure reste les animaux, mais c'est une protéine qui a une chaîne beaucoup plus énergivore pour arriver à cette quantité-là de protéines. C'est sûr, en petite quantité, on s'entend que les petits peuples de cueilleurs-chasseurs cueilleurs-chasseurs pouvaient manger de la viande dans un équilibre, mais on est dans une autre réalité aujourd'hui où on est une densité incroyable puis que peut-être du jour au lendemain, on ne pourrait pas nécessairement manger. Surtout avec l'augmentation qui existe avec le MAPAC concernant la viande de chasse. Mais pour rester dans le sujet, c'est ça du sauvage. Je pense qu'il y a beaucoup d'espace à développer ces produits-là. Qui sont sauvages, est-ce que ça va tous... est-ce qu'on continue à développer ces produits-là comme les sortir du monde sauvage, dans le sens pour augmenter la productivité de certaines ressources qui viennent de nos forêts, ou on les garde à une échelle sauvage? Ben ça peut aussi changer l'accessibilité, le prix de certains produits qui pourraient être des protéines végétales sauvages, par exemple.
Mmh. Oui, absolument. Puis c'est un des buts de l'association aussi, c'est d'encourager l'agroforesterie puis la restauration écologique utile d'une certaine manière aussi. Et vient avec ça des aménagements fauniques. Parce que ce que les humains mangent souvent, c'est aussi ce que les animaux sauvages mangent. Puis en ce moment, au Québec, il manque de chasseurs, tu sais, pour la population. Je ne dis pas qu'on pourrait nourrir tous les Québécois, mais on pourrait en nourrir plus.
Ouais.
Quoique la maladie dégénérative du cerf sera un enjeu pour notre génération. Mais Il y a quand même une manière d'aménager le territoire qui augmente l'abondance de non seulement des plantes, des champignons et des animaux qui en dépendent. Puis toi, en tant que cueilleur, comment ça se passe, admettons, une saison complète du printemps à l'automne, en plus de faire tous tes services? Est-ce que tu jardines aussi? Comment tu... ton approvisionnement, comment tu fais ça?
Mais disons que la relation, elle a évolué au fil des années. Suite à ma formation, c'est sûr que là, je voyais mon calendrier puis profiter de chaque période de l'été puis que finalement, à chaque semaine ou deux semaines, c'est une nouvelle saison qui commence. Surtout quand tu es freak ou tu es perfectionniste puis tu veux vraiment cueillir les plantes lorsque l'énergie est à son maximum dans telle partie de la plante et tout. Donc, au début, je faisais beaucoup plus de cueillette à ce niveau-là. Puis c'est sûr que là, avec mon service de traiteur, dans les dernières années, ça a comme beaucoup augmenté puis je me suis mis à travailler beaucoup. Mais j'ai eu la chance d'avoir des bons amis autour de moi, Vincent Leblanc puis Emmanuel Proulx, qui sont des cueilleurs eux-mêmes. Donc, je me suis souvent approvisionné avec eux pour garder ce contact-là. Puis moi, sur le terrain même du couvent, j'ai répertorié les plantes sauvages qui poussent déjà sur le terrain, je les favorise et tout. Puis des fois, je fais des petites sorties là, au printemps surtout pour aller chercher les verdures printanières. Puis depuis 2 ans, je jardine au couvent. Donc c'est sûr que ce temps-là que je passe dans le jardin, c'est du temps que je passe moi à cueillir dans la forêt, mais je cueille dans mon jardin à la place. Puis, mais que ça permet d'avoir vraiment une belle variété de produits frais, là, vraiment diversifiés, plein de fleurs comestibles et tout. Puis c'est sûr que là, avec ce qui se passe actuellement, je vois une opportunité aussi de retourner un peu à l'idéal recherché pour moi qui est de être connecté avec les plantes de la forêt, reconnecter avec ces cycles encore plus pour vraiment aller chercher cette nutrition-là. Chaque année est disponible, finalement, si on la récolte de façon responsable, bien entendu. Donc, pour moi, je vois cette année-ci comme une opportunité aussi pour sortir plus en forêt en cette période de calme. Je pense que j'ai envie d'encourager les gens aussi. Je pense que les gens vont sentir que c'est une compétence et c'est une compétence utile. Puis là, on voit l'importance de celle-ci. Donc, parce que c'est sûr qu'en cuisine, tu sais, c'est un métier en soi. La cueillette aussi, c'est un domaine en soi parce qu'il faut quand même, si on va faire des sorties qui sont rentables, tu sais, qui couvrent nos frais, ben, faut réussir à cueillir suffisamment. Faut connaître les endroits, les bons moments. Puis ça, c'est s'il y a personne qu'ils ont trouvé aussi avant toi. Donc, pour moi, je pense que pour que ça soit en équilibre, je le recherche pas tant comme une activité commerciale non plus, comme une activité personnelle qui fait du bien de sortir en forêt, de respirer, connecter, d'observer, d'être nourri par cette sortie-là par la même occasion, puis de vraiment sélectionner des plantes que je sais que ça vaut l'intérêt pour moi de le faire moi-même, puis d'autres choses que ça demande peut-être plus de recherche, d'aller plus loin, d'avoir de l'équipement et tout, ben, j'encourage mes amis qui font ça. Avoir accès à ces produits-là quand même.
Puis, tantôt, tu parlais de technique, puis il y a des techniques de conservation. Quand tu cueilles, que ce soit au jardin ou en forêt ou en lieu sauvage, est-ce que je pense que dans ton entreprise, tu parlais du cru, il y a cet aspect-là, beaucoup. Comment tu gères ça, la saisonnalité, puis l'amener à l'assiette dans sa fraîcheur? Est-ce que tu travailles avec des méthodes de conservation? Puis jusqu'où quelque chose est cru? C'est quand qu'on arrête que c'est plus cru? Est-ce que quelque chose de fermenté est cru?
Très bonne question. Ben, c'est sûr que l'élément cru, c'est quelque chose qui était beaucoup plus présent dans ma cuisine il y a 7 ans. Je dirais qu'il était plus présent la sphère des repas crus, sans cuisson. Mais aujourd'hui, c'est encore présent dans les volets de fermentation, par exemple. Donc, mettons qu'on fait de la cueillette, des choses comme ça. Les champignons, souvent, bon, ça, l'idéal, c'est de les consommer frais. Donc, parce qu'on les cuit toujours en général, les champignons, parce que c'est toujours conseillé de manger aucun champignon cru. Donc, à ce niveau-là, ça ne se passe pas beaucoup. ce qui est intéressant, c'est que les champignons, la technique de les faire sécher à basse température, puis là, c'est là qu'on reste dans la courbe du cru, parce que le cru, en fait, en général, ne va jamais dépasser le 41, 42 degrés Fahrenheit. Température au-delà de laquelle c'est considéré qu'il y a une perte de nutriments, destruction des enzymes, à partir de cette température-là, à partir de 43-ish. Et puis ça dépend de chacun des aliments aussi. Il y en a qui, leur composition est toute différente, donc ils sont tous affectés différemment. Mais bref, quand on reste dans cette zone-là, qu'on fait sécher des aliments, surtout des aliments qui ont du umami, le processus enzymatique continue durant la déshydratation à cette basse température-là, ce qui fait qu'il y a une production qui continue de glutamate ou de guanylate, qui est une autre molécule similaire au glutamate, mais je ne veux juste pas mélanger tout le monde. Je le mets tout sur le même bateau du glutamate monosodique.
Umami.
C'est des molécules qui vont continuer à se développer à cette température-là. Donc, on concentre la teneur en umami dans nos champignons. Puis quand on va les réhydrater, c'est la même chose. On ne veut pas les ébouillanter. Comme ça nous permet de continuer ce processus-là enzymatique qui permet de développer le goût. Donc là, c'est là qu'on voit que les techniques de conservation, souvent, on associe ça à une perte de nutriments. Tu déshydrates, il y a une perte de nutriments. Tu congèles, il y a une perte de nutriments. Oui, il peut y avoir une perte de nutriments, mais il y a des façons de le faire qui, des fois, vont être plus appropriées pour certains types d'aliments. Puis qu'en plus, on peut favoriser le développement de saveurs. Donc,
Juste une précision sur le champignon. Donc, cette température de 42-43 degrés, tu parlais que les champignons étaient indigestibles s'ils n'étaient pas cuits. Et ça, c'est dû à une chaîne de protéines qui est indigestible, qui est trop longue, qu'on appelle la chitine. Est-ce que cette chaîne-là est brisée dans ce processus de déshydratation?
Ça, je ne sais pas. C'est une très bonne question. Mais à ce niveau-là, en général, quand on va réhydrater les champignons, on va les cuisiner quand même par la suite. Donc, à ce niveau-là, c'est correct. Mais peut-être ça pourrait changer, mais j'en ai aucune idée là, s'il y a un changement à ce niveau-là.
Puis la fermentation, elle, est-ce que c'est du cru? Puis par rapport aux nutriments, qu'est-ce que ça fait? Et est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant en termes de saveur? Parle-nous un peu de la fermentation.
Ah oui, c'est vraiment de très qui ramène ce que j'ai parlé tout à l'heure quand je parlais du umami. Je disais la viande, le poisson, là, là. Mais j'ai parlé aussi des fermentations. Dans le processus de fermentation, il y a le glutamate qui va se développer dans les aliments. Donc, c'est vraiment intéressant quand on va aller chercher ce côté-là savoureux, rond, surtout si on a une alimentation végétarienne, végétalienne, qu'on ne sait pas les alliés umami à avoir. Ben, les fermentations, c'est vraiment génial. Puis, comme technique de conservation, moi j'aime toujours ça parler un peu d'histoire aux gens pour reconnecter d'où est-ce que ça remonte, tu sais, cette magie-là de la vie, de la fermentation, comment on a survécu jusqu'à aujourd'hui. Puis avec les voyages en bateau, tu sais, on a tout entendu parler du scorbut, puis les marins qui étaient morts, puis que bon, des Européens ont été sauvés par les Autochtones, mais en fait, il y aurait plein de voyages en bateau qui n'auraient jamais pu être réalisés si les marins n'avaient pas de la choucroute dans leur navire. Puis on voyait ceux qui avaient plus d'expérience, plus qui avaient taux de chances de survie. C'est ceux qui avaient les réserves nécessaires en aliments et en choucroute. Parce que la choucroute, c'est une explosion de vitamines. C'est bon pour la digestion. Donc, c'est cette choucroute-là qui a permis aux marins de survivre pendant des longs séjours, pas de lumière, pas de vitamine C. Ben, il y en avait, mais grâce à ça. Pour moi, c'est comme la choucroute a sauvé l'humanité, les marins, puis l'Amérique aurait peut-être jamais été découverte si la choucroute n'existait pas. Bon, peut-être une bonne chose, on ne sait pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'on n'existerait pas ici aujourd'hui s'il n'y avait pas de fermentation, parce que toute l'humanité l'aurait changé. Donc, c'est là que ça amène le volet conservation. C'est qu'ils ont réussi à conserver du chou pour qu'il pourrisse. Ben, il était conservé comme un aliment super nutritif pendant longtemps. Donc, pour moi, pour la saisonnalité, la fermentation, c'est un incontournable parce que ça me permet de conserver des légumes frais qu'on peut questionner si c'est cru ou quoi, mais ça reste dans le domaine du cru, mais il y a quand même une certaine prédigestion qui est faite par tous les organismes qui se développent dans les aliments. Mais ça reste que c'est super biodisponible, c'est très nutritif, puis ça aide beaucoup à la digestion. Puis c'est riche en vitamines, puis c'est plein d'umami, ça a de l'acidité, donc ça, c'est comme un bon mélange qui devient un bon condiment du quotidien. Mm-hmm. Puis on peut avoir de la variété, on peut avoir des choucroutes, des kimchi, la fleur d'ail. T'sais, la fleur d'ail, c'est tellement incroyable comme produit, puis ça peut être super abondant, presque trop abondant une période. Ben moi, je fais juste tout broyer avec le sel, je fais fermenter, puis j'ai comme, la fleur d'ail qui goûte le ciel pour cuisiner avec toute l'année, parce qu'après ça, quand tu as le bon pH, aucun souci, parce que ça se conserve super bien, des fois tablette même, au frais. Donc, ça fait toute une différence.
Ça, sur... si on l'a... sur la conservation puis le pH, ça, c'est souvent quelque chose qui est confus. C'est une des méthodes de conservation les plus utilisées par nos aïeux, c'était le canage. Mm-hmm. Et comment, on parle souvent de la peur du botulisme. Est-ce que mm-hmm. tu te sens à l'aise de parler de c'est quoi le botulisme? Comment, est-ce que le canage, ça le tue? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un pH en particulier? Comment on se retrouve là-dedans?
C'est sûr que... Oui, c'est un sujet quand même délicat. Je veux pas... Je tiens à dire tout de suite, je ne suis pas un expert du MAPAC, donc je me déresponsabilise de tout ça. Mais non, c'est vrai, le botulisme, c'est quand même quelque chose à ne pas négliger. Au niveau des cas décelés, c'est pas quelque chose qui est fréquent, mais ça peut arriver. Puis en fait, c'est parce que c'est quelque chose qui est présent dans la terre. C'est pour ça que l'ail... c'est un des aliments qui a beaucoup de risques de botulisme. Puis, quand on fait du canage, c'est ça, il faut respecter un certain pH. Puis, en fait, pour ça, sur le site du MAPAC, c'est vraiment bien parce que tu as des tableaux qui t'expliquent selon le pH, le risque qu'il y a, selon la méthode de conservation. Puis aussi, il y a un autre élément qui est si la protéine, dès qu'on parle de protéines animales ou même végétales, quand il y a une haute teneur en protéines, le risque augmente. Fait que souvent, il faut qu'il y ait un pH ou qu'il y ait une façon de cuisson par autoclave, par exemple. Avec la pression, ça va augmenter la température interne du produit. Donc, ça permet de sécuriser le tout. Sinon, c'est sûr que ça, il y a des tableaux là, qui nous permettent vraiment de savoir là, les pH. Mm-hmm. Puis, une des choses à faire, c'est de ne pas avoir de l'ail dans du gras cuit. Ça, c'est comme le truc que le MAPAC va toujours chercher puis il va avoir peur. Est-ce qu'il y a de l'ail? Dès que tu as un produit tablette, souvent, ils vont te demander est-ce qu'il y a de l'ail dedans? Parce que le botulisme peut être présent dans l'ail, comme dans beaucoup de légumes racines passés dans la terre, mais l'ail est comme étiqueté étant plus à risque. Donc, je pense que oui, il y a un risque. Puis, je conseille toujours aux gens de bien suivre les méthodes. Tu sais, il y a la technique de stérilisation, de traitement des peaux avec la chaleur. Fait que ça permet d'éliminer les risques puis d'augmenter la conservation. C'est sûr que des fois, on diminue un peu la nutrition quand on va faire du canage, parce qu'il va y avoir beaucoup de vinaigre, du sucre et tout. C'est pour ça que la fermentation devient un bon allié, la congélation aussi. T'sais, moi, je me fais des batchs d'ail confit. Ben, je me battrai pas assez de trouver une recette pour faire garder mon ail confit là, puis je vais le dégeler au fur et à mesure que j'en ai besoin, dans des contenants pas trop gros. Donc, à ce niveau-là, avec la congélation, pour les produits qui n'ont pas une longue conservation, j'utilise le gras ou le sucre comme étant des agents protecteurs de la congélation, parce que c'est vraiment l'eau qui prend l'expansion durant la congélation. Ça prend 1/11 de son volume. En expansion, fait que ça déchire, ça brise la structure. Donc souvent les pestos, des humus, des tapenades, ça c'est des préparations de base qui sont géniales pour la congélation parce que c'est plein de gras qui lui va protéger davantage les cellules puis qui va avoir une meilleure texture à la décongélation.
Ben, juste on va transférer sur les conservations, mais pour ceux qui s'intéressent à ça, soyez bien sûr de suivre les recommandations sur un autoclave, ce n'est pas une cocotte minute. Il y a certaines choses qui peuvent être cannées juste à chaud, soit dans le four, soit dans l'eau chaude, à cause de leur pH acide, comme les sauces tomates. Les méthodes de sel et de sucre, bien sûr, sont des méthodes bien utilisées. Donc, pour chaque aliment, sa conservation en termes de saveur, en termes de goût, mais aussi en termes de gestion du risque. Ça fait que c'est absolument fascinant. C'est pas si compliqué, mais il faut être sûr qu'on fait les bonnes choses.
Puis j'ajouterais peut-être, il y a un exemple Bernardin qui a un livre sur les conserves. Que ça peut être intéressant d'avoir un livre qui explique les trucs de base, qu'il y a des recettes de base, qu'on peut changer un peu les ingrédients sans changer... le pH ou les proportions qu'il y a. Donc, ça nous donne déjà des lignes claires à suivre.
Un autre aspect aussi de ta pratique, c'est les formations. Tu donnes des formations. Je sais que tu donnes une formation en milieu naturel. Ça s'appelle le Food Camp. Si tu veux un peu en parler de cette formation-là, puis c'est quoi que tu vises à faire avec ça?
Oui, donc je donne des formations, des ateliers. Puis là, ce que tu parles, le food camp, c'est plus le volet retraite culinaire. Le food camp, plus, c'était une co-création à 4 personnes sous ce nom-là. Pour le moment, on est comme dans des projets différents. Donc, le food camp en tant que tel n'est plus actif. Puis aussi, il y avait l'événement à Québec qui avait le même nom. Donc, déjà là, on avait... Ça rendait plus difficile la tenue de cet événement-là. Mais je fais toujours des retraites culinaires, qu'on dit retraites culinaires inspirées, basées sur le nom de mon entreprise, là, Andrew P. Cuisine Inspirée. Puis c'est une retraite culinaire que je fais en partenariat avec Mélissa, Mélissa Chotola-Vachon, qui collabore avec moi depuis vraiment plusieurs années. Puis c'est un espace qu'on s'offre avec les gens. Ça a lieu à Valmorin, au Havre du Rocher, qui est comme juste à côté du couvent. Potager. Donc, on peut aller faire une visite sur place, voir comment je fais le jardinage en collaboration avec Croque Paysage. Donc, avec des techniques qui ont été optimisées pour les rendements. Donc, les gens peuvent découvrir un peu plus sur le jardinage, mais surtout, c'est de voir, puis de cueillir, de sentir, de goûter une grande variété de produits. Que des fois, on ne sait même pas qu'il y a autant de biodiversité que ça, mais c'est une possibilité que la nature nous offre. Là, c'est juste une fraction de ce potentiel-là qu'on peut venir goûter, éveiller nos sens, reconnecter à l'origine de nos aliments, à l'origine de nous-mêmes aussi, finalement, parce qu'on est ce que l'on mange. C'est notre carburant, c'est nos matériaux de construction. Aussi, durant le séjour, surtout que là, c'est au début cette année, on le fait du 19 au 21 juin, donc au solstice. Pour nous, c'est vraiment l'opportunité de prendre le temps de commencer la saison avec comment on peut mettre en valeur les produits, soit avec des recettes, plein d'idées de vinaigrette pour l'été, ou ce qu'on peut faire mêler une salade avec... toute la saison qui va suivre, mais aussi faire des préparations qu'on va conserver au congélateur, des pestos, des tapenades, des éléments qu'on peut déjà commencer à faire des petites réserves pour prolonger la saison parce qu'on sait qu'il y a certains aliments qui ne durent vraiment pas longtemps. Puis des techniques de cuisine qui font en sorte que les aliments qu'on a chez nous à la maison, on puisse en tirer le plus possible en faisant le moins de gaspillage, puis savoir comment on peut faire des bouillons avec plein de retailles, puis que ce bouillon-là, ça soit une base qui est nutritive en plus d'être savoureuse, qui est fraîche, qui ne nous coûte rien, au lieu d'acheter des cubes de concentré ou des boîtes de bouillon. Ça, c'est des éléments. Puis finalement, aussi d'apprendre comment cuisiner, là, d'apprendre des recettes pour que suite à ça, suite à une fin de semaine complète où on va faire une immersion dans une alimentation plus végétalienne, qu'on soit inspiré, motivé à intégrer ça à la maison, puis qu'on soit outillé pour qu'on voit les produits. Puis là, au lieu de dire « Ah, mais j'achèterai pas ça, je sais pas quoi faire avec ça », ben, de faire comme « Ah, ben oui, c'est vrai, on a vu ça » ou « Ah, ben avec ce type d'aliment-là, il est possible de faire ce type de recette-là ». Donc, c'est avec ces classifications-là un peu, ces catégories-là, ça l'aide à enlever un peu de stress, là, à savoir « Ah, que je vais savoir cuisiner ça ». Puis, on essaie d'équilibrer le tout aussi, où ce que, oui, on passe du temps à cuisiner, on va sortir en forêt, on va pouvoir faire de l'identification de plantes. Surtout les plantes printanières là, qui sont vraiment succulentes. On va passer du temps dans le jardin, mais aussi il va y avoir du temps pour mouvement du yoga. Donc, on prend soin de nous, on apprend sur la cuisine. Puis, c'est vraiment pour moi, c'est important de partager ça pour que les gens puissent sentir cette fierté-là du terroir, en fait. Au lieu de se sentir limité d'habiter au Québec et de ne pas avoir accès à ce que toute la mondialisation peut nous offrir en tout temps, tout le temps, c'est de dire « Ah, wow, on est chanceux de vivre ici au Québec. On a toutes ces plantes-là, ces aliments-là qui peuvent pousser ici. Puis de plus en plus, les semenciers nous donnent accès à des semences de plus en plus variées. On redécouvre cette biodiversité-là. Puis en plus, avec les passionnés qui passent du temps en forêt, moi, je pense qu'on peut juste être émerveillé par le potentiel qui nous entoure, qu'on boude un peu, qui est distant de nous parce qu'on ne le connaît pas vraiment, finalement. On s'est un peu déconnecté de ces racines-là. Faire une différence chez les gens pour qu'ils soient fiers du terroir qui nous entoure, des producteurs d'ici, moi, ça me remplit de bonheur. Mm-hmm.
C'est clair, au Québec, il n'y a pas juste des navets puis de la choucroute. Là. On est sorti des bateaux il y a 400 ans. Là. On est arrivé sur un territoire plein d'abondance de toutes sortes, puis on est encore à la découvrir. As-tu un coup de cœur, toi, disons, là, dans le monde de plus PFNL, forestier, as-tu quelque chose qui... Soit quelque chose de récent qui t'excite ou un coup de cœur que tu utilises souvent?
Je dirais que coup de cœur, c'est sûr que dans les dernières années, j'ai eu la chance de goûter beaucoup de champignons. Puis ouais, j'ai un coup de cœur, c'est vrai, je vais le partager après. Je dirais que Vincent Leblanc, quand il m'a fait goûter les champignons, le jaune blanc, c'est sûr que ça allait arriver. C'est un champignon qui pousse beaucoup dans le nord, blanc, vert, blanc, gris.
Hein? Le Matsutake?
Ouais, exact. Pour moi, j'ai halluciné quand j'ai senti le goût de pollen, de fleurs, vraiment florales. Tu sais. Pour moi, c'est comme, oh, on dirait, c'est la pharmacie, comme quand tu prends du propolis. Il y avait un effet similaire. Un parfum comme près du propolis, très floral. Ça m'a vraiment surpris comme moi. Comme le champignon amande aussi, que ça goûte l'amaretto, ça sent, c'est comme oh! On peut tellement être surpris. Mais sinon, un coup de cœur que j'ai, c'est avec Emmanuel Proulx. C'est un projet depuis longtemps là, qu'on voulait faire, le pogo des bois. C'est avec les épis de quenouille qu'on a blanchi. On a fait un bouillon avec l'enveloppe, tu sais, comme on fait avec le maïs. Tu gardes l'enveloppe du maïs, puis tu le mets dans ton eau de cuisson et que tu gardes le goût. Puis là, ah, on a cuit ça. En tant que tel, tu sais, ça se mange de même, c'est pas si mal, mais là, on les a panés, puis on les a fait frire. Puis c'est hallucinant, le croquant, le moelleux à l'intérieur. Puis tu as déjà la tige du pogo, fait que c'est un pogo écolo, local. C'est vraiment génial. Fait que ça a été un beau coup de cœur là, qu'on a réalisé là, au printemps dernier.
Ton pogo, des pits de quenouille, beurre ou ketchup?
Ou moutarde, c'est comme vous voulez.
Andrew, comment on peut suivre tes aventures, faire affaire avec toi? C'est quoi les moyens de te rejoindre?
Je priorise beaucoup par courriel pour poser des questions, pour me rejoindre directement à info à commercial. cuisineinspirée.ca. Sinon, j'ai mon site internet. Là, c'est sûr que je vais le remettre à jour avec là, ce qui se passe actuellement. J'ai des ateliers à croque-paysage. J'ai vraiment concentré là, mes ateliers à croque-paysage. C'est un lieu dans la région des Laurentides, à Val-David. Puis, donc, sur ma page Facebook aussi, j'ai des événements comme la retraite. Je partage un peu d'informations, mais sur mon site internet, www.cuisineinspirée.ca. J'ai des recettes qui sont disponibles gratuites sur mon site, puis une petite bio avec un horaire pour les événements que je vais mettre à jour prochainement.
Puis là, y a-tu un livre qui s'en vient, végétalien sauvage?
là, c'est le bon. Dans les prochains mois, ça va être le projet. Puis, je vais tenir les gens au courant sur ma page Facebook et sur mon site Internet. Puis, peut-être qu'on pourra se faire une nouvelle rencontre à ce moment-là. Sinon, j'encourage les gens à essayer les recettes puis de m'envoyer des commentaires s'il y en a. Positif, constructif, tout est bienvenu.
Ou négatif.
Au négatif, mais on aime mieux dire constructif que négatif en général parce qu'on transforme le négatif en positif. Donc, je me suis quand même arrangé pour mettre des recettes qui ont été approuvées quelques fois avant. Donc, voilà, ouais.
Andrew Perron, merci.